l'UNICEM à Marseille s'est tenu Visage de Syrie, la vie qui résiste, du 31 janvier au 2 février.
Conférences, débats, projections, lectures, Radio Grenouille y était.
Christophe Ayad, journaliste au Monde, partenaire de l'événement Visage de Syrie, la vie qui résiste au MUCEM.
Bonjour Christophe Ayad.
Bonjour.
Visage de Syrie est organisé en partenariat avec Le Monde, journal dans lequel vous travaillez. Est-ce que vous êtes à l'origine de l'événement ou de la sélection des intervenants ?
Non, je ne suis pas à l'origine de l'événement, mais connaissant bien Fabienne Verstraten qui l'a organisé avec Thierry Fabre, nous avons discuté des thèmes, des angles et des invités, et nous avons apporté, enfin Le Monde a apporté ses contacts, son expertise, et le MUCEM aussi, donc ça s'est fait en collaboration. Maintenant c'est le MUCEM qui dirige et accueille cet événement, et Le Monde y contribue par quelques conseils, son carnet d'adresses, et puis moi-même pour dans le cadre de l'animation de débats.
Et en tant que journaliste français, vous ne vous sentez pas des fois un peu offensé ou, enfin, qu'est-ce que vous pensez du traitement du conflit syrien par les médias occidentaux ?
Bah, j'en fais partie, donc je ne vois pas bien comment je me sentirais offensé par moi-même.
Oui.
Maintenant, les médias occidentaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des médias de droite, des médias de gauche, il y a des médias qui sont plutôt sensibles aux thèses du régime, d'autres qui sont plus proches de l'opposition. Il y a des médias d'opinion et des médias de fait. Donc voilà, et même à l'intérieur de notre journal, il y a des sensibilités différentes et... tout n'est pas politique non plus, c'est-à-dire qu'il y a des modes d'approche différents, il y a des reportages, des enquêtes, des analyses. On traite le conflit syrien en allant à Syrie dans la mesure du possible. Plusieurs d'entre nous y sommes allés, Florence Aubenas, Jean-Philippe Rémy, moi-même, et puis d'autres comme Benjamin Barthes ou comme Yves-Michel Riol ou Nathalie Nougared ont travaillé plus sur... les questions diplomatiques, sur l'opposition, sur la société syrienne à distance quand ils le peuvent, par Skype, par différents moyens, par des rencontres d'opposants, etc.
Et vous ne pensez pas que parfois le point de vue russe, comment il est traité dans les médias en France notamment, ça exacerbe un peu les relents de guerre froide ?
Est-ce que vous pensez que peut-être que le point de vue russe n'est pas assez développé, exposé, mais enfin il l'est ? À travers la reprise des citations, des prises de position du gouvernement russe. Maintenant, ce ne sont pas les médias qui font la dynamique d'un conflit. Il faut arrêter avec cette vision qui me paraît complotiste et qui est à l'envers des choses. Les Russes ne se positionnent pas par rapport à des médias. Ils ont une position diplomatique, politique, stratégique sur le conflit syrien qu'ils défendent à l'ONU. Et ensuite, c'est aux médias de l'analyser. Voilà, ils l'analysent avec leur sensibilité, leur position, et il y a des éditoriaux qui prennent position là-dessus. Ça ne me choque pas, ça ne me gêne pas. Il est normal, à un moment ou à un autre, de prendre position sur de prendre position sur la position qu'a adopté un pays, sur ses choix au moment des votes à l'ONU, notamment sur les condamnations de massacres, lorsqu'on on agite la menace d'un veto, ou lorsqu'on sort un veto pour éviter de condamner un massacre, eh bien, il y a un choix qui a été fait et dont la diplomatie russe doit être comptable devant l'opinion mondiale.
Et vous ne pensez pas, du coup, peut-être mon parallèle va tomber à l'eau, que le traitement de la Syrie va devenir un bourbier médiatique comme l'a pu être celui de la Tchétchénie, où maintenant on ne sait plus qui fait quoi, qui sont...
Non, c'est pas vrai. Il faut arrêter. Je veux dire, vous pouvez pas tout mélanger, tout mettre dans le même sac. Un bourbier médiatique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je veux dire, l'affaire Dieudonné est aussi un bourbier médiatique dans ce sens-là. Il y a la question des faits. Le Monde notamment a beaucoup travaillé pour essayer de montrer, de démontrer, de prouver que le régime avait recours à plusieurs reprises en Syrie à l'arme chimique. Je suis désolé, ce sont des faits et ce ne sont pas que des opinions. Il y a des journalistes qui sont allés sur place, qui ont risqué leur vie pour constater ça, et qui ont ramené des échantillons, qui ont été analysés, qui ont prouvé ça. Voilà, donc ça c'est un travail journalistique et ce n'est pas un bourbier médiatique, on est pour ou on est contre.
Et qu'est-ce que vous avez pensé du coup du coup de gueule de Francesca Borri l'été dernier sur la situation des pigistes? C'était une pigiste indépendante italienne qui était en Syrie justement. Ça a fait tout un...
J'en ai rien pensé parce qu'on n'a pas eu recours à des pigistes. J'ai pour principe de ne jamais faire courir à un pigiste un risque que nous ne courons pas nous-mêmes. Je vous répète ça, j'y tiens. Là aussi, on a beaucoup agité ça. Le Monde ne se sent pas concerné par ce débat-là. Il existe au sein de la profession, mais Le Monde a passé son temps à faire travailler ses propres journalistes, à faire courir des risques à ses journalistes. Et lorsque ces journalistes ont jugé qu'un certain nombre de risques ne devaient plus être courus, on n'a jamais demandé à quelqu'un d'extérieur, à son journal, de le faire à sa place.
Et hier, vous avez beaucoup insisté sur le fait que toutes ces pseudo-manipulations médiatiques ou de la part de certains groupes politiques en Syrie montraient que la société syrienne était divisée, alors qu'en fait, elle arrive très bien avec le vivre ensemble. Enfin, hier, on a beaucoup insisté là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'au final, ces fausses divisions de la société vont marquer le pays et la société syrienne ?
Je vais reformuler votre question parce que ce n'est pas les manipulations médiatiques de certains groupes en Syrie, c'est des choix de couverture dans certains médias. C'est-à-dire, ne parler que d'islamistes en Syrie, là où il n'y a pas que des islamistes, c'est pas honnête. Il faut de temps en temps rappeler, oui, alors c'est eux qui ont en ce moment les armes et le vent en poupe, c'est eux qu'on voit le plus, mais il n'y a pas que ça qui se passe. Moi, quand j'étais en Syrie, justement, j'ai fait des articles pour montrer qu'il y avait des villages qui se géraient eux-mêmes grâce à des militants civils qui sont des gens croyants, pratiquants, extrêmement pieux et conservateurs, mais pas forcément des djihadistes, c'est-à-dire des gens qui ont déclaré la guerre à l'Occident, qui veulent installer la charia et proclamer un État islamique. Donc ça existe aussi et ça mérite qu'on en parle. Et si, voilà. Donc, alors est-ce que ça va avoir un effet sur la Syrie ? Oui, ça en a un. C'est que la révolution syrienne, la cause syrienne, ce qui s'y passe est en train de lasser, dégoûter de plus en plus vu avec dédain ou avec dégoût par une partie de l'opinion qui pense qu'il n'y a le choix qu'entre une dictature qui se prétend laïque mais qui ne l'est pas et des islamistes extrémistes qui veulent instaurer un État islamique mais qui n'en fichent strictement rien à fiche de la Syrie. Il n'y a pas que ça en Syrie aujourd'hui.
Justement, sous la forme future peut-être de la Syrie, certains pensent que c'est prématuré d'y réfléchir. Pourtant, il y a eu Genève 2. Enfin, est-ce qu'elle était... Genève 2 était... trop prématuré. On voit dans Le Monde un article hier, Genève 2 est mort, vive Genève 3. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire, qu'on peut commencer à réfléchir à, je ne sais pas, un tribunal pénal international, un comité vérité réconciliation ?
Il y a des gens qui réfléchissent à comment traîner en justice ceux qui commettent des crimes de part et d'autre, dans les deux camps, des crimes contre l'humanité. Mais je pense que ça ne pourra intervenir que lorsque il y aura une forme de solution politique qui fera que l'on pourra appréhender ces gens-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous me demandez si Genève 2 sert à quelque chose. Ça a servi à mettre face à face le régime et l'opposition et on s'est aperçu qu'il n'en est rien sorti. Alors, il ne faut pas croire que ce sont des processus courts, que tout va se régler, que le problème syrien va se régler en 4 jours dans une conférence. C'est un processus qui est lancé. Il va se poursuivre, reprendre, et on verra ce qu'il en sortira. Je pense qu'il me paraît prématuré parce que lassitude, la fatigue de la guerre n'a pas encore gagné tous les protagonistes. Il y a des protagonistes, que ce soit dans l'opposition ou au sein du gouvernement, qui pensent pouvoir encore remporter ce conflit militairement. Tant qu'ils sont convaincus de cela, la voie de la négociation ne sera pas leur voie privilégiée.
Et puis selon la cartographie de la Syrie, il y a quand même des endroits avec des enjeux différents. Je pense notamment à Yarmouk, qui est sous le coup d'un blocus depuis un an et demi. Qu'est-ce qui peut changer à cet endroit-là, puisque enfin, c'est complètement chapeauté par...
Assiégé, vous voulez dire ? C'est pas chapeauté, c'est assiégé. Il y a des gens à Yarmouk qui sont affamés par un régime qui refuse de laisser entrer l'aide humanitaire. Ce que j'en pense, c'est qu'il me paraît absolument étonnant et scandaleux que l'on soit capable d'obtenir d'un régime qu'il lâche ses armes chimiques, qu'il observe des résolutions de l'ONU sur ce point-là et qu'il ne laisse pas rentrer un carton de bananes ou de nourriture dans une zone qui est à 15 minutes du centre de Damas. S'il est capable de donner l'accès à toutes ces casernes pour vérifier qu'il n'y a plus d'armes chimiques, il est aussi capable de laisser rentrer des vivres, et il est question de vivres, pas d'armes, dans un quartier assiégé où l'opposition s'est enfermée. Mais il n'y a pas que l'opposition là-dedans avec des armes, il y a des femmes, des enfants qui ne veulent pas en sortir ou ne peuvent pas en sortir. Et ces gens-là meurent de faim. Et ça, il faut que ça soit dit aussi. Donc il faut être précis sur ce qui se passe en Syrie, arrêter de tout mélanger, de croire qu'on meurt sans raison. Non, on meurt parce que le régime a décidé d'affamer des femmes et des enfants. On meurt parce que des groupes armés djihadistes ont décidé de faire régner la loi dans certains villages dans le nord. Voilà.
C'est pour ça que hier, par exemple, vous avez insisté un peu sur le patrimoine matériel et immatériel, puisque on peut avoir l'impression qu'on nous dit 2 millions de réfugiés, un nombre de morts. Mais là, voir les bâtiments ou entendre parler de cette culture, c'est ça qui permet quelque part de... Vous avez utilisé l'expression hier, humaniser le conflit.
Non, je pense pas humaniser le conflit en montrant des monuments ou des pierres. Je pense juste que la Syrie, ce sont des hommes, des femmes qui souffrent, et c'est aussi une âme, une identité. Et que lorsque vous détruisez ces monuments, vous détruisez cette âme, cette identité, et ça c'est très difficile à reconstruire. Je ne parle pas des monuments, mais justement de l'âme et de l'identité syrienne. C'est comme si en France, on détruisait Montmartre, la Tour Eiffel ou Notre-Dame. Eh bien, vous détruisez quelque chose de la France qui va être très difficile à reconstruire, une certaine idée de la France, comme on dit. Et bien là, c'est la même chose qui se passe. Et ça, ça a un effet sur les réfugiés. Évidemment qu'en ce moment, l'urgence, c'est les 3 millions de réfugiés et les 6 millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie. Mais si on ne prend pas garde à ce qui est fait au patrimoine architectural, mais aussi aux gens qui l'ont construit, ce patrimoine, et qui l'ont entretenu, et qui vivent autour, eh bien, on finira par avoir beaucoup plus de mal à reconstruire un pays où il fera bon vivre ensemble, où les gens se sentiront fiers et heureux d'être syriens.